Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour 3 heures d'émission en direct, comme à l'habitude de partie. Nous recevons tout d'abord à 18h dans quelques instants Jacques Frémaux, qui est professeur émérite de l'Université de Paris, la Sorbonne, à l'occasion du chapitre qu'il a écrit dans La Nouvelle Histoire de France, cet ouvrage collectif dirigé par Éric Anceau et publié aux éditions Passé Composé. Il a écrit le chapitre consacré à l'Algérie. Et nous allons donc consacrer cette première partie d'émission à l'histoire de l'Algérie et dans la France en quelque sorte. Et puis à 19h30, nous recevons David Chanterane, qui est historien à l'occasion de la publication de son livre, toujours aux éditions Passé Composé. Ce soir c'est 100% Passé Composé. Et bien ce livre est consacré au peintre Jacques-Louis David. Le titre du livre c'est Jacques-Louis David, l'empereur des peintres. Je rappelle que nous avons la chance d'avoir Laurent au standard, qui sera ravi de prendre vos messages, vos questions que nous proposons à nos invités. Vous pouvez le faire par téléphone, je rappelle le téléphone de la radio, 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Nous abordons donc maintenant cette première partie d'émission et nous poursuivons, comme je l'ai annoncé, ces émissions avec ces invités qui comptent parmi les 100 auteurs de cette superbe et très complète nouvelle histoire de France dirigée par Éric Anceau. Après avoir reçu dimanche dernier, le 7 juin, 2 auteurs de cet ouvrage, Frédéric Rouvillois et Jean-Pierre Chaline, autour de l'histoire de la bourgeoisie et du savoir-vivre. Eh bien, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un autre de ces auteurs, Jacques Frémaux, pour le chapitre qu'il consacre à l'Algérie, à partir, bien sûr, de la conquête française de 1830. 130 ans d'histoire, à peu près, une histoire... Enfin, 130 ans plus, si on la prolonge, bien sûr, jusqu'à nos jours. Une histoire qui est relativement courte au regard de l'histoire de la France qui est plurimillénaire, mais c'est une histoire qui est très riche d'événements, de passions et de drames, et qui continue d'ailleurs à nous marquer l'actualité avec les condamnations récentes de Boualem Sansal, de Kamel Daoud, et du journaliste Christophe Glaise, en témoigne. Et pourtant, la conquête de l'Algérie, décidée par Charles X, ne semble procéder d'aucune volonté stratégique, mais plutôt d'un opportunisme politique. C'est ce que explique notre auteur, notre invité ce soir, dans le chapitre qu'il consacre donc à ce pays. On est encore très impressionné d'ailleurs par des intentions aussi légères face aux conséquences dramatiques de cette histoire, l'histoire de l'Algérie et de la France, avec des drames et des victimes par milliers. Alors on se demande aussi, puisque nous allons bien sûr interroger notre invité sur ce point particulier, parce que nous avons tous appris à l'école, dans les cours d'histoire, que la décision d'envahir l'Algérie donc en 1830 serait la conséquence du fameux coup d'éventail donné par le Dey d'Alger au consul de France d'Éval, ça le 30 avril 1827, ainsi que la volonté de mettre fin à la piraterie en Méditerranée. Donc ça, c'est une question effectivement que nous posons ce soir à Jacques Frémaux. C'est important que nous comprenions bien, en effet, les causes de l'invasion de l'Algérie par l'armée française, sous la décision, bien sûr, du roi et de son gouvernement. Et puis, cette décision, dont les conséquences seront effectivement dramatiques dans l'histoire, eh bien, nous en vivons toujours, en quelque sorte, une forme d'héritage politique, conséquence des accords d'Évian, de ceux de 1968, à savoir cette immigration algérienne qui est majoritaire dans l'immigration de masse que nous subissons actuellement en France. Alors Jacques Frémaux, en quelques pages parfaites hein, de cette nouvelle histoire de France, raconte ses 130 années d'histoire et ce sera le thème de notre émission. Jacques Frémaux, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct pour parler de ce chapitre très dense. Hein. Vous réussissez à résumer cette histoire longue, complexe et dramatique en quelques pages. Et vous avez un parcours assez riche. Avant d'en arriver à la première question, je rappelle que vous êtes professeur honoraire de l'Université de Paris-Sorbonne en histoire contemporaine et que vous êtes spécialiste de l'histoire coloniale. Vous avez une particularité, c'est que vous êtes né en Algérie, pays que vous avez quitté à l'âge de 13 ans, et vos aïeux, votre famille, s'y étaient installés vers 1850. Donc vous avez une histoire familiale forte avec l'Algérie. Vous êtes donc, comme je le disais, spécialisé dans l'histoire contemporaine et notamment l'histoire coloniale. Vous êtes à cet égard membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, membre du comité de rédaction de la revue historique des armées, directeur de recherche au centre Roland Mounier de la Sorbonne. Parmi les nombreuses occupations qui vous caractérisent, vous avez beaucoup écrit sur ces thèmes. Je citerai qu'un choix de livres parmi les nombreux que vous avez écrits, l'Afrique à l'ombre des épées, 1830-1930, ces trois volumes que vous avez publiés auprès du service historique de l'armée de terre. Vous avez écrit aussi sur des établissements côtiers aux confins sahariens, les officiers administrateurs et les milices indigènes. Vous avez écrit aussi sur les bureaux arabes dans l'Algérie de la conquête, ça c'est chez De Noël, et puis plus récemment, le Sahara et la France, chez Soteka, ça c'était en 2010, la conquête de l'Algérie, la dernière campagne d'Adelkader, au CNRS édition, et ça c'est en 2016. Souhaiteriez-vous mentionner d'autres livres parmi...
Je peux mentionner deux livres que j'ai écrits, notamment un qui est sur les guerres coloniales des Européens, qui est un livre que j'ai écrit il y a quelques années, qui est un livre assez important, enfin qui a surtout pour... intérêt d'évoquer non seulement l'Empire français, mais enfin les armées françaises, mais également les armées britanniques, les armées russes, les armées américaines, les armées espagnoles et autres, qui complétait un autre livre que j'avais écrit sur les empires coloniaux, dont le sous-titre était justement « Prélude à la mondialisation », qui était aussi une étude de l'ensemble des empires coloniaux. Voilà, et puis actuellement, je prépare un livre qui devrait paraître au mois de septembre, qui s'appellera « Vie et mort des Français d'Algérie », donc 1830-1962.
Et vous publiez où ce dernier ouvrage ?
Il sera publié aux éditions Perrin.
D'accord. J'espère que vous viendrez le présenter à la radio, nous vous recevrons avec grand plaisir, ce sera l'occasion de se rencontrer dans le studio, hein, puisque là nous sommes à distance.
Oui, d'ailleurs, je vous signale, hein, bon, j'espère que tout va bien marcher, mais enfin j'espère que la connexion Internet va être stable, parce que quelquefois on a quelques difficultés, mais enfin nous prions pour que tout marche bien.
Bon, en tout cas pour l'instant ça va bien.
Oui, pour l'instant c'est parfait.
Alors espérons effectivement que ça continue. Ainsi, avant d'en arriver au sujet de l'histoire de l'Algérie et de la France, hein, c'est ce chapitre que vous avez écrit, intitulé « Algérie, donc dans la nouvelle histoire de France », j'aimerais vous poser, si vous voulez bien, quelques questions, parce que j'ai été intrigué par votre parcours, et vous êtes professeur donc d'université émérite, vous êtes spécialisé notamment sur l'histoire coloniale et je voulais savoir est-ce que ça c'est lié à votre propre histoire, à votre histoire familiale, parce que vous êtes né à Alger, Vous avez quitté l'Algérie en 1962 à l'âge de 13 ans, et puis toute votre famille est venue très tôt. Vos aïeux sont venus très tôt en Algérie, dès 1850. Est-ce que c'est ce parcours qui vous a orienté?
J'ai un ancêtre enterré en Algérie dès 1849, vous voyez donc.
Ah oui, en effet. Donc c'est bien avant 1850 alors, effectivement.
Pas bien avant, mais quelques mois avant.
Oui. Quelques mois, oui. Oui. Est-ce que, justement, c'est ce parcours particulier qui vous a orienté sur ce sujet?
Oui, bien sûr, oui, parce que disons que j'ai fait des études classiques régulières, ordinaires, disons, enfin, dans un certain sens, le grand lycée de Lyon au Parc, la CAGN de Lyon, l'école normale supérieure, l'agrégation d'histoire, mais effectivement, dès que je me suis orienté dans la recherche, j'ai trouvé que ce sujet de l'histoire de l'Algérie, et notamment l'histoire de l'Algérie coloniale, était très mal connue. Hein, et donc, c'est dans ce sens-là que je me suis orienté dans cette direction, en élargissant justement à l'histoire coloniale en général. Bon, parce que je pensais que c'était, évidemment, on ne pouvait pas la situer uniquement dans un cadre très, très étroit.
Parce que vous avez quitté l'Algérie à un âge où les souvenirs vous marquent tout de même. 13 ans, 13 ans, on est conscient de ce qui se passe. Et pourriez-vous nous dire un mot du souvenir que vous avez de ces événements, et puis l'histoire de votre famille, même en Algérie?
L'histoire de ma famille en Algérie, c'est assez simple. Ce sont des gens qui étaient une famille essentiellement au départ d'artisans, plutôt, qui étaient venus les uns du nord, enfin, comme beaucoup de familles d'Algérie, les uns du nord de la France, les autres plutôt du Languedoc, qui s'étaient alliés avec des jeunes femmes qui, les unes, étaient d'origine espagnole, les autres d'origine maltaise, et donc qui ensuite avaient progressé, disons, d'un certain point de vue. Bon, mon père était, disons, a été cadre d'entreprise, et donc bon, qui avait eu cette progression assez classique finalement d'un grand nombre de Français, mais qui avait un attachement réel à l'Algérie et qui se considérait réellement comme des Algériens, disons, français, bien sûr, avec cette spécificité, et qui n'avait envisagé que très tard, peut-être au mois de mars ou avril 1962, qu'il devrait quitter l'Algérie. Pour eux, l'Algérie, c'était quelque chose qui devait continuer. Voilà, ils n'avaient pas l'idée qu'ils auraient été obligés d'en partir.
Quel souvenir vous avez des derniers moments passés en Algérie? Ça a dû être une épreuve très marquante pour vous-même,
oui,
mais toute votre famille.
Ça a été très marquant, mais comme toujours, dans ce cas-là, disons qu'on a tendance à effacer un peu la réalité des émotions. Hein, mais disons, ces souvenirs bon, de scènes très, très pénibles, c'est le souvenir de, disons, le souvenir le plus dur, c'est celui d'une des tantes de ma mère qui a été assassinée dans des conditions épouvantables près d'Alger au mois de mars 1962. Donc, c'est aussi le souvenir aussi, il faut dire, bon, de l'impression d'une grande indifférence de la part de la métropole. Il y a aussi ce souvenir-là. Bon, voilà, ce sont les processus qui restent, disons, c'est ce qui reste de la sensibilité de cette époque. Bon, ensuite, on essaye justement, en historien, de remettre un petit peu en situation, bien sûr, hein, mais qui laisse des souvenirs assez, assez durs, effectivement.
Vous avez pu revenir en Algérie par la suite?
Oui. Ce qu'il faut dire, hein, c'est que j'ai gardé, enfin disons que travaillant sur l'Algérie, j'ai eu l'occasion d'y retourner, j'ai encore l'occasion d'y retourner. Bon, je fais même partie, je ne sais pas si ça continuera, mais j'ai fait partie jusqu'à quelques semaines de la commission qu'on appelle la commission mixte des historiens franco-algériens qui avait été mis sur pied par le président Macron pour essayer justement d'établir un dialogue mémoriel, bon, qui a permis d'excellents contacts et des contacts même très amicaux avec des historiens algériens, mais qui pour l'instant est complètement bloqué, bon, par faut bien reconnaître par la mauvaise volonté du gouvernement algérien et par l'incapacité du gouvernement français à définir une ligne très, très précise. Bon, je ne veux pas entrer évidemment dans
Oui,
les
bien
détails,
sûr.
mais enfin, c'est un peu ça.
Vous avez toujours reçu un
Disons
bon accueil.
que j'ai gardé de bons contacts avec l'Algérie. J'ai eu aussi un certain nombre d'étudiants algériens ou de collègues algériens qui sont des amis. Donc, si vous voulez, je ne ressens pas pour l'Algérie. Ne ressens pas du tout de ce qu'on pourrait appeler du ressentiment. Hein. Pour moi, je crois, enfin, si je ne veux pas entrer dans le détail non plus,
Bien sûr.
mais je crois de toute façon que les bonnes relations franco-algériennes sont aussi, et là j'insiste beaucoup, sont aussi fondamentales pour l'avenir de la France, et peut-être plus que les relations franco-allemandes. Hein. Je pense que c'est extrêmement important et que donc, pour cela, il faut avoir une attitude extrêmement prudente, ouverte et surtout très bien informée. Voilà.
Et pourquoi, alors, je rebondis sur ce que vous allez dire, pourquoi pensez-vous que les relations franco-algériennes sont plus importantes que par exemple les relations franco-allemandes? C'est rare d'entendre cet avis-là. Pour quelle raison pensez-vous cela?
Disons, il y a une proportion. D'abord, l'Algérie est un pays voisin, pour commencer. Hein, c'est une heure d'avion de la France. Une population qui croît quand même extrêmement vite, qui est près de 50 millions d'habitants maintenant. Une population d'origine algérienne installée en France, qui compte plusieurs millions de personnes. Hein, je pense que l'ouverture de la France sur les pays méditerranéens et sur le sud ne peut se faire qu'à travers des pays comme l'Algérie, pas uniquement l'Algérie bien sûr, hein, mais à travers des pays comme l'Algérie et à travers une bonne relation, peut-être pas uniquement avec le gouvernement algérien, mais en tout cas avec les Algériens et par une bonne connaissance par les Français des problèmes algériens. Voilà, une question franco-algérienne.
Et donc, ce que vous nous expliquez, c'est que vous ne constatez pas dans vos différents travaux, vos différents échanges et vos rencontres une hostilité particulière entre vos homologues algériens. Ça,
Non,
c'est
non.
une relation qui est normale, en quelque sorte.
C'est une relation qui est difficile parce que
Oui.
souvent elle est marquée d'une part, par l'incompréhension, par la méconnaissance. Alors, je ne parle pas de mes collègues, bien sûr, d'une part, par la méconnaissance et d'autre part, disons, les prises de position politique des uns et des autres. Bon, disons, pour simplifier, parce que là aussi, je ne suis pas
Oui.
politique du tout, hein. C'est pas du tout mon métier. Je me garderai de donner des leçons aux uns aux autres. Mais en gros, si vous voulez, bon, le gouvernement algérien a tendance, évidemment, à instrumentaliser sa relation avec la France pour essayer de construire une unanimité qui est loin d'exister à l'intérieur de la population algérienne. Une idée fondée sur un esprit nationaliste et même extrêmement chauvin. Et du côté français, là aussi, il y a soit une espèce d'admiration un peu béate pour une Algérie qui serait une Algérie socialiste, révolutionnaire, qui se serait libérée de la France par son combat et qui serait toujours un modèle en quelque sorte. Et d'un autre côté, une méconnaissance totale de ce qu'a été la colonisation et de la manière dont les Algériens considèrent la colonisation et le poids de l'héritage colonial. Et donc tout cela ensemble, évidemment, ça fait beaucoup d'incompréhension et beaucoup de freins à des relations apaisées ou normales, disons.
Donc le travail n'est pas terminé, c'est ce que vous
Non,
expliquez, Jacques
non, non,
Frémaux.
ça je ne crois pas.
En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir. Donc autour de ce chapitre consacré à l'Algérie, de cette nouvelle histoire de France, et je vous propose, s'il vous plaît bien, justement, qu'on commence par le début, qui est la décision, en effet, pour la France de prendre possession d'Alger. Et vous écrivez, vous posez cette question. Au début de ce chapitre, pourquoi la France s'est-elle attaquée à un pays totalement étranger, largement inconnu, aux populations hostiles? Et donc et vous évoquez, donc je vais vous laisser répondre, bien sûr, hein, c'est ce que. Mais vous n'évoquez pas, alors c'est vrai que vous êtes certainement obligé de synthétiser, mais vous n'évoquez pas, peut-être ne considérez-vous pas ça comme justement des raisons sérieuses de cette invasion? Le fameux coup d'éventail, ce qu'on apprenait tous à l'école, hein, bien sûr. Le fameux coup d'éventail, donc comme je le signalais en introduction, en 1827, du dey d'Alger au consul, il paraît que c'était pas quelqu'un de très recommandable d'ailleurs, le consul de Val, et puis le problème posé par la piraterie. Alors je vous laisse évoquer, nous expliquer ce que sont pour vous les raisons effectivement principales, réelles, donc, de cette décision de Charles X, de son gouvernement, d'envahir. Ça se passe quelques jours seulement, quelques semaines avant d'ailleurs que ce régime soit renversé.
Oui, alors, bon, il faut d'abord penser, enfin bon, là je ne veux pas être trop long, mais penser d'abord que, bon, évidemment, 1830, c'est fondamental, mais enfin l'histoire de l'Algérie et l'histoire de France, bon, sont quand même plus parallèles qu'on le dit, hein, parce que finalement, l'histoire de l'Algérie, ça commence avec les Berbères, ça commence avec Jugurtha, et ça, là, c'est le moment, très curieusement, c'est à peu près au deuxième siècle, à peu près avant Jésus-Christ, justement apparaît Jugurtha, et le consul Marius, qui est aussi celui qui va repousser les Germains, va capturer Jugurtha. Vous voyez, donc on est quand même dans des choses qui sont assez proches. Bon. Et c'est l'histoire de la Méditerranée, hein, de toute façon. Alors, bon, si on revient à 1830, il y a cette question de la piraterie. Est-ce qu'elle a été déterminante? Bon, elle avait été surtout très importante au XVIIe et même encore au XVIIIe siècle. Elle avait beaucoup reculé au XIXe siècle parce que les puissances maritimes européennes étaient en mesure de faire la police. Il y avait encore un bombardement énorme d'Alger par la flotte anglaise, d'ailleurs, vers 1816, qui avait été quelque chose de très important. Et donc, il y avait bien des phénomènes de piraterie, mais enfin, ces phénomènes de piraterie, ils étaient très largement réduits. Donc, ils ne gênaient pas vraiment le commerce méditerranéen, même s'il pouvait y avoir des phénomènes de banditisme, mais enfin, c'était réduit à quelque chose, à peu de choses. Donc, la manière dont le gouvernement français décide d'intervenir en Algérie, effectivement, c'est à la suite d'une affaire très compliquée, qui est l'affaire un débat entre le dé d'Alger et le gouvernement français à propos de dettes. Hein, de dettes, le gouvernement français avait acheté du blé en Algérie, ce blé n'avait pas été payé, l'affaire a traîné pendant très longtemps avec beaucoup d'interventions de gens plus ou moins malhonnêtes, y compris le prince de Talleyrand lui-même. Bon, et finalement, on a réussi à faire un règlement qui correspondait à peu près, qui indemnisait à peu près les Algériens et qui avait donc livré ce blé, mais le dé d'Alger a considéré dans cette affaire que ses intérêts n'avaient pas été suffisamment respectés. Il a accusé, justement, semble-t-il, à raison, le consul de Val d'avoir défavorisé dans cette affaire. Bon. Et donc, c'est là qu'intervient la fameuse scène du coup d'éventail. Le dé aurait fait une scène assez violente au consul de Val. Bon, cette scène, d'ailleurs, très peu de gens l'ont vue. Hein. Mon maître Iacono, Xavier Iacono, grand historien de l'Algérie, avait fait un article là-dessus. Le nombre de les témoins sont très peu nombreux, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça ne s'est pas passé devant une grande foule. Hein. Mais apparemment, quand même, c'est bon. C'est un fait qui est avéré, bon, de ce coup d'éventail ou un coup de chasse-mouche. Enfin bon, bref, le consul, donc, et c'est à partir de ce moment-là que le consul, se jugeant insulté, décide de quitter Alger. Bon, ce n'est pas le premier consul et le premier représentant de la France qui quitte Alger. D'ailleurs, c'est devenu depuis une espèce de... C'est devenu une habitude. Hein. Bon, vous n'avez qu'à poser la question à l'ambassadeur Xavier Driancourt, qui pourra vous faire la liste de ce genre de démonstration.
Mais ça n'est pas son cas, il n'a pas été frappé, lui, par...
Non, il n'a pas été... Non, mais disons que l'idée de partir solennellement et de revenir, bon, ça s'est devenu un peu coutumier. Alors, toujours est-il... Non, mais je plaisantais, bien sûr. Est-il que, à partir de ce moment-là, le gouvernement français... décide. C'est un prétexte, en fait, de l'attention se tend, l'attention naît, si vous voulez, et on fait un blocus, on commence par demander des excuses au dé, le dé refuse de les faire, et finalement, donc, pour exiger des réparations, on organise un blocus des côtes algériennes. Bon. En réalité, il semble qu'au fond de toute cette affaire, hein, la raison profonde que d'ailleurs j'aurais dû développer peut-être dans mon article assez court que vous avez eu la gentillesse de citer, l'idée du gouvernement français, c'était d'avoir une grande politique en Méditerranée et c'était d'acquérir une position sans doute importante, une position navale en Méditerranée face aux côtes françaises. C'était la seule position possible, car s'il y avait des meilleures positions, si vous voulez, il y avait certainement la position Tunis, hein, mais il y avait d'autre part les positions des côtes marocaines, mais les côtes marocaines, c'était Gibraltar aux Britanniques, bon, évidemment du côté espagnol, mais les Britanniques tenaient à garder le contrôle de l'entrée de la Méditerranée, et il n'était pas question non plus de s'intéresser à la Tunisie, qui était d'ailleurs sous suzeraineté turque également, mais aussi qui était le passage pour la Méditerranée orientale et sur lequel les Anglais veillaient jalousement. Donc, la prudence, si on voulait avoir des positions en Méditerranée occidentale, c'était les côtes de l'Afrique du Nord, qui n'offraient pas d'ailleurs d'avantages maritimes extraordinaires, mais enfin qui offraient quand même des possibilités. Et donc, le gouvernement, à cela s'ajoute. Donc, ça, c'est sans doute l'idée fondamentale. Mais à cela s'ajoute l'urgence de faire une opération justement qui soit prestigieuse pour le gouvernement, pour le régime. Et là, on est plutôt dans la politique intérieure, c'est-à-dire que Charles X voudrait réformer profondément les institutions françaises dans un sens réactionnaire d'ailleurs. Et pour cela, il pense que un succès militaire lui permettrait de mettre fin au régime de la charte tel qu'il a été établi en 1814 et pour établir une monarchie plus absolue suivant ses voeux. Hein. Et donc, il y a ce deuxième aspect. Et il va d'autant plus se presser que la situation politique en France lui paraît favorable, en quelque sorte. Et donc, c'est là qu'on arrive à 1830. Après 3 ans, quand même, hein, de tergiversation, parce que le coup d'éventail, c'est 1827.
Donc une double raison, une raison stratégique un peu de fond, c'est cette volonté d'avoir une base en Méditerranée, qui sont d'ailleurs très anciennes, parce que le corps expéditionnaire français, vous allez expliquer comment il est constitué, débarque à Sidi Ferouk. Sidi Ferouk, c'est le lieu de débarquement qui avait été déjà relevé par un émissaire de Napoléon. En cas d'opération, donc l'état-major de l'époque, mais c'est pas dans les conseils donc datant du Premier Empire, c'est ça?
Oui, tout à fait, parce que Napoléon, bon, qui avait des projets partout, avait pensé à un moment, en 1808, qu'il serait utile d'avoir une position justement en Afrique du Nord, en pensant justement toujours dans le cadre d'une politique anti-britannique. Et donc, il avait envoyé un officier, le commandant Boutin, donc faire une reconnaissance discrète à Alger pour essayer de savoir quel serait le meilleur lieu de débarquement. Et Boutin, qui était un officier du génie, avait donc jugé que le lieu de Sidi Ferouk, Sidi Fredj actuellement, donc qui se trouve un peu à l'ouest d'Alger, aurait été la meilleure position, ce qui s'est avéré d'ailleurs tout à fait exact.
Alors, Alger tombe en 3 semaines. Les combats sont-ils difficiles? Et il y a combien le corps expéditionnaire? C'est combien de personnes à peu près?
Alors, c'est un gros corps expéditionnaire, hein, parce qu'on prend près de 37 000 hommes.
Hein, ah oui, c'est important, en effet.
Une flotte, une marine très importante. Oui, d'ailleurs, on est impressionné quand on voit la possibilité d'envoyer un corps expéditionnaire si loin dans de telles conditions. Hein. Et donc, il débarque. La principale difficulté, en réalité, c'était le transport et c'était le débarquement, comme d'ailleurs c'est toujours le cas, hein, car d'abord, il y avait le problème des tempêtes en Méditerranée. Et la Méditerranée est une mer très difficile, contrairement à ce que peuvent croire les touristes, hein, ou les vacanciers. Et les tempêtes ont détruit des flottes entières depuis l'Antiquité, hein, y compris celle de Charles Quint, notamment, qui avait essayé en 1541 d'attaquer Alger. Et donc l'amiral Dupéré était extrêmement inquiet sur la possibilité de débarquer. Donc bon, on a quand même réussi à débarquer. Il n'y a pas eu d'opposition. L'armée du Dé a essayé, n'a pas empêché le débarquement. Elle a laissé le débarquement se faire. Et bon, une fois que l'armée française s'est rangée en bataille, la disproportion des forces et de la différence d'organisation, d'armement a fait que la victoire était à peu près assurée aux troupes françaises, bon, qui ont pu marcher et assis sur Alger, par les hauteurs et s'emparer d'Alger, bon, et obliger le dé à capituler. Donc, ça aurait été une promenade militaire si on élimine le fait que, comme d'habitude dans ces expéditions, la mortalité par maladie a été quand même assez fond.
Le dé qui capitule, il s'est réfugié à l'étranger, il a quitté l'Algérie, comment ça s'est... ou alors il a été capturé, emprisonné.
Le dé a signé la capitulation et donc il a été immédiatement il a été immédiatement embarqué sur un navire en destination de Constantinople, hein, puisqu'il était sujet. Il était sujet turc, donc là il n'y a pas eu de problème particulier. La question qui a peut-être qui a ensuite été soulevée, c'est que il n'était peut-être pas une idée excellente d'expulser immédiatement tous les Turcs et toute leur administration, qui était l'armature quand même administrative du pays, alors que c'était un pays qui était à peu près inconnu. Hein. Bon, c'était sans doute une grave erreur politique.
Mais comment les Français vont-ils procéder sans administration locale, puisqu'elle a été expulsée? Comment, dans les tout premiers temps, vont-ils administrer ce pays?
Oui, ben dès le début d'ailleurs, alors c'est là que dès le début on voit, disons, l'improvisation. Au départ, bon, si tu étais agi que de prendre et de tenir Alger, au fond, le problème ne se serait pas tellement posé. Il suffisait d'occuper une ville, d'y mettre une garnison, bon, d'assurer peut-être la sécurité des alentours. Mais très vite, les autorités françaises, Charles X, mais surtout à partir de Louis-Philippe, donc, qui est arrivé au pouvoir très peu de temps après, hein, puisque Charles X tombe à la fin du mois de juillet, bon, c'est ensuite l'arrivée de Louis-Philippe, du gouvernement donc de la famille d'Orléans.
Alors,
à ce moment-là, décide très tôt d'établir une colonie en Algérie.
Oui, excusez-moi, je vous interromps et on va revenir effectivement à la manière dont les Français vont administrer, mais je voulais juste vous poser une dernière question sur Charles X, puisque vous nous avez expliqué les raisons qui l'ont conduit à faire cette conquête, raison de fond stratégique et raison plus liée aux élections. Il n'a pas gagné les élections, puisque le régime d'ailleurs est renversé hein, le 30 juillet, donc cette conquête ne sert à rien, donc elle n'a pas eu l'effet espéré. Les Français ont été indifférents à cette victoire en quelque sorte.
C'est-à-dire que l'opinion publique, enfin d'ailleurs, disons que les classes dirigeantes, les classes politiques, ont jugé que, à juste titre d'ailleurs, ont bien vu que l'opération de Charles X était une opération de diversion. Donc, toute l'opposition a continué à penser qu'il s'agissait d'obtenir justement le maintien de la charte ou même des réformes plus libérales et que, par conséquent, il ne s'agissait pas d'être impressionné par l'opération d'Alger. Ça explique pourquoi il y a eu ce soulèvement. La chute du régime.
Alors revenons à l'administration de ce premier territoire avec, pour l'instant, uniquement la ville d'Alger.
Oui, alors au départ, bon, donc, il s'agit de dominer, c'est assez curieux, un pays sur lequel on a très peu de connaissances, on a des récits de voyage, on n'a pas de véritable carte, on a évidemment des itinéraires, on connaît un certain nombre de choses, mais enfin, on n'a pas de carte, on n'a pas d'interprète, parce que évidemment, on a fait venir des interprètes, mais ce sont en général des interprètes qui ont été formés en Orient, au Moyen-Orient, c'est-à-dire en Syrie, c'est-à-dire en Égypte, où les dialectes sont très différents des dialectes algériens. Et donc, ça rend le contact avec les Algériens, sauf peut-être avec les lettrés, mais ça représente quand même peu de monde, ça rend les contacts avec les Algériens extrêmement difficiles. Bon, il n'y a pas du tout, évidemment, d'interprètes de langue berbère, kabyle, etc. D'autre part, l'organisation du pays est à peu près inconnue, c'est-à-dire l'organisation en tribus, du pays en tribus, qui sont dirigées par des chefs de famille, l'organisation, la manière, les ressources du pays, la manière dont vivent les habitants, leurs traditions sont tout à fait inconnues aussi. Alors, dans un premier temps, il se passe ce qui se passe toujours, c'est-à-dire qu'on explique aux populations qu'on vient les libérer, bon, ce qui ne veut absolument rien dire pour eux. car ils voient surtout, justement d'ailleurs, les Français comme des envahisseurs. Ils voient en eux aussi des chrétiens, car il ne faut pas oublier que l'Algérie, comme d'ailleurs toute la côte du sud de la Méditerranée, s'est considérée comme une espèce de frontière avancée de l'islam face à la chrétienté. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis au moins le 15e siècle, hein, 15e, 16e siècle. Bon. Ça ne crée pas de relations qui sont très bonnes au départ. Bon, d'autre part, évidemment, l'armée qui arrive, bon, c'est une armée qui a besoin de vivre, qui a besoin de se ravitailler, donc qui n'a pas non plus un comportement, évidemment, absolument impeccable. Et donc, pour toutes ces raisons, les premières relations sont assez, enfin, les premières relations et les relations par la suite, d'ailleurs, sont assez mauvaises, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il faut faire la conquête du pays, tout simplement.
Comment cette conquête est-elle organisée et surtout et les choix d'ailleurs, c'est ce que vous expliquez dans ce chapitre consacré à l'Algérie, Jacques Frémaux, et les choix à Louis-Philippe. Louis-Philippe, expliquez-vous, ne sait pas très bien que faire hein, d'ailleurs de cette conquête. Il aurait pu finalement s'en tenir à Alger ou peut-être même quitter Alger. Qu'est-ce qui détermine Louis-Philippe? Quel est son objectif?
Alors, très vite quand même, parce qu'il y a des documents là-dessus, Louis-Philippe et son entourage ont l'idée de créer en Algérie une colonie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une colonie? C'est-à-dire d'établir des colons et d'essayer et faire que ces colons puissent produire un certain nombre de productions, justement, qui soient utiles à la métropole. À l'époque, on pense surtout, d'ailleurs, à des productions qui soient des productions de type tropical, ce qui est un peu bizarre, mais enfin, on pense que l'Algérie pourrait produire du café, pourrait produire du coton, ce genre de produits, de productions qui manquent à la France et dont l'Angleterre profite largement grâce à ses possessions coloniales, grâce à l'Inde, etc. Alors, ça, c'est la première idée. Et puis ensuite, il va y avoir une deuxième idée, alors là, qui est moins souvent soulignée parce que ça apparaît moins. C'est que le régime s'appuie largement sur l'armée. Or, l'armée a besoin en tout cas d'un champ d'expansion. En Europe, sa mission est à peu près bornée parce que la France est très surveillée par toutes les puissances européennes. Et par conséquent, il reste l'Afrique du Nord, il reste l'Outre-mer. Hein. Et donc, Louis-Philippe va pousser quand même très largement les militaires à faire la conquête d'Algérie. Et parmi les premiers de ces militaires, il y aura ses fils, hein, car tous ses fils, pratiquement, vont faire campagne en Algérie et ils vont acquérir des grades, dont le plus célèbre étant le duc d'Aumale, celui qui a capturé la
La
Smala
fameuse
quelques années
Smala,
plus tard.
oui.
Mais son fils aîné, le duc d'Orléans, avant lui, avait participé à plusieurs campagnes et les autres fils vont également figurer dans plusieurs opérations militaires.
Mais
Donc
oui.
c'est un peu l'Algérie, c'est un peu une, non pas une chasse réservée de Louis-Philippe. Oui, il y a aussi peut-être quelque chose, mais là c'était terminé. C'est le fameux trésor de la Casbah qui avait été saisi, qui était le trésor qui était donc dans les caves du palais du Dey en 1830 et qui a été saisi, mais dans des conditions assez curieuses, car on s'est aperçu que les sommes de ce trésor, qui étaient assez importants, correspondaient exactement aux frais de l'expédition. Et donc, on s'est toujours demandé si le surplus, une bonne partie du surplus, n'était pas parti directement dans les caisses royales. Bon.
Et
Ça ne, il y a eu
oui.
quelques enquêtes qui ont été arrêtées assez vite.
Ce trésor, de quoi était-il constitué?
C'était un trésor qui était constitué. C'était un trésor qui était constitué essentiellement d'argent, d'or monnayé, d'argent, d'un certain nombre de ressources financières assez importantes qu'on évaluait à plusieurs dizaines de millions de l'époque, les millions de francs or, bien sûr, et qui était d'autant plus important que le dé, le gouvernement du dé, enfin, ça peut paraître assez bizarre, était assez thésaurisé, c'est-à-dire qu'il dépensait très peu de choses. Hein. Il faisait pas d'investissement pour moderniser l'Algérie. Il dépensait très peu finalement pour l'armée. Il payait les janissaires, c'était l'essentiel, hein, c'est-à-dire les ses soldats. Mais il n'avait pas de dépenses importantes. Donc c'était des sommes qui s'entassaient dans les caves de la Casbah. sans véritable usage.
Alors, les historiens soupçonnent qu'une partie de ce trésor serait partie directement au bénéfice des Orléans. C'est ce que
Oui,
vous... C'est ce qui...
c'est ce qui est souvent suggéré. Et quand il y a une première, il y a comment, une enquête qui a été faite au début de la troisième du Second Empire et qui a été arrêtée assez vite, semble-t-il, pour des raisons politiques, pour éviter justement de dire du mal de qui que ce soit. Mais apparemment, ça a été quand même, il y a eu des détournements importants, en tout cas, de ces sommes. Ça, c'est tout à fait certain.
Cette enquête n'a pas été reprise. On en est
Non, elle n'a
resté
pas
à ce
été
qui a été
reprise,
fait.
non. Non, non, on peut toujours essayer, mais.
Donc cette conjonction, en quelque sorte, de l'intérêt des Orléans et aussi de l'armée fait que Louis-Philippe décide de conquérir. L'Algérie, hein, d'aller au-delà, en effet, des frontières d'Alger. Alors, ce qui est impressionnant, c'est quand même une guerre qui va durer quasiment 30 ans, de
Oui.
1830 jusqu'à 1857. Elle se termine, vous l'expliquez, par une expédition en Kabylie. Alors, la longueur de cette conquête, mais aussi le nombre de pertes, hein, de part et d'autre, hein, elles sont très importantes, bien sûr. Les pertes locales, la population locale, mais aussi les pertes dans l'armée française, puisque à peu près 100 000 tués hein, dans l'armée française, c'est absolument...
Oui, enfin, tué ou mort de maladie,
Ou
hein. Il y
mort
a
de
eu mort
maladie, c'est vrai que
de
c'est
maladie.
oui, c'est l'un des facteurs
La
importants, mais...
paludisme, mais enfin, les fièvres diverses ont tué énormément de gens.
Ce sont des chiffres très, très impressionnants. Je vous propose d'évoquer, si vous voulez bien, cette conquête, comment ça s'est passé, cette trentaine d'années, et puis aussi la question que j'aimerais bien vous poser, conquête de l'Algérie. À quoi correspond l'Algérie à cette époque, sur le plan géographique? Est-ce que c'est un territoire qui est clairement défini, ou ça a été défini au moment des accords d'Évian, à l'occasion des négociations, justement, entre les différentes parties?
Bon, écoutez, définir les conquêtes de l'Algérie, c'est toujours délicat par rapport au gouvernement algérien actuel. Mais bon, ce
Oui.
qu'on peut dire quand même, assez simplement, en 1830, et là, sans discussion, c'est qu'au fond, l'Algérie, c'est un pays, bon, elle a des frontières assez délimitées, avec d'une part, ce qu'on appelle la régence de Tunis. Donc, qui est donc un pays très largement déjà indépendant, même s'il est sous souveraineté turque, et d'autre part avec l'Empire du Maroc, bon, qui a sa propre dynastie et qui est, lui, complètement séparé, fait qu'il n'a pas de relation de dépendance avec la Turquie. Bon. Et là, les frontières ne sont pas abornées comme elles seraient aujourd'hui, mais on sait à peu près quelles sont les tribus qui obéissent plutôt au sultan de Constantinople, plutôt au bey de Tunis. Et on sait à peu près quelles sont les tribus qui obéissent au sultan du Maroc. Donc, dans tous les territoires, disons, qui sont les territoires méditerranéens, là où la population est assez importante, les gens savent de qui ils dépendent. Alors, il peut y avoir évidemment des glissements, mais pas plus qu'il y avait de glissements, si vous voulez, à l'époque au Moyen Âge, par exemple, entre le royaume de France et d'autres et ses voisins. Hein. Il peut y avoir des passages, mais enfin, on sait à peu près. On connaît à peu près les territoires qui dépendent, disons, du dey d'Alger. Hein, là, il n'y a pas tellement de problèmes. Ou la question la plus discutable, après, c'est quand on descend vers le sud. Parce que vers le sud, y a pas, la population est beaucoup moins nombreuse. Les allégeances sont beaucoup plus faibles. Et là, disons qu'il est difficile de bien distinguer qui obéit véritablement, quelle est la puissance et l'influence des États. Là, c'est très difficile. Or, bon, la seule, les tout dépend un peu quand un des éléments importants, mais qui n'est pas un élément politique finalement, c'est le souverain au nom duquel on dit la prière du vendredi à la mosquée. Pour les uns, c'est le sultan de Constantinople, mais ça, c'est aussi bien pour tous ceux qui dépendent des Turcs. Donc, c'est aussi bien pour la Tunisie que pour l'Algérie et que pour la Libye. Pour les autres, ce sont ceux qui disent la prière au nom du sultan du Maroc. Mais vous voyez que tout ça n'est pas quand même un critère politique très, très suffisant. Donc, on peut dire que l'Algérie est bien définie jusque, disons, aux limites du Sahara. Voilà. Après, les choses sont beaucoup moins nettes et finalement, ça n'intéresse pas grand monde parce que ce sont des territoires, au fond, qui sont peu importants. pratiquement à l'époque.
Alors vous expliquez que la population à cette époque, à l'époque de la conquête de la France, c'est à peu près 3 millions d'habitants.
Oui, à peu près, oui. 3 ou 4 millions, oui, on peut discuter. Et
comment se répartit cette population? Parce qu'on a tous en tête que les Arabes ont colonisé en leur temps l'Algérie, qui était berbère. Et comment se répartit la population entre Arabes et Berbères? Est-ce que, donc Kabyles, hein, les Berbères ce sont les fameux Kabyles, est-ce que tous vont résister aux troupes françaises de la même manière, ou il n'y a pas des alliances qui pourraient qui auraient été faites les uns contre les autres
D'abord, la division entre disons berbères et arabes est moins nette que celle à laquelle on pourrait penser, parce que, par exemple, la grande langue de culture, c'est la langue arabe, qui est la langue du Coran, et puis qui est la langue aussi des lettrés. Hein. Donc, aussi bien en Kabylie que dans les autres régions, les lettrés lisent, écrivent, parlent l'arabe classique. Hein. Donc, il n'y a pas de véritable différence. Bon. Par ailleurs, il faut savoir que la langue berbère est beaucoup plus dispersée qu'elle ne le serait aujourd'hui. Elle est beaucoup plus dispersée, mais elle est souvent parlée en même temps que le dialecte arabe. Ça n'est pas, les distinctions ne sont pas aussi nettes. Alors, malgré tout, effectivement, il y a des régions dans lesquelles la berbérité s'est beaucoup plus conservée. Vous avez parlé de la Kabylie, on peut parler aussi des massifs de l'Aurès, hein, qui sont très caractéristiques pour cela. Dans l'ensemble, il faut d'abord savoir que ils ont toujours eu des liens plus ou moins diplomatiques avec le B. Bon, pas toujours. Ils n'ont pas toujours accepté de payer des impôts, mais payer des impôts, c'est aussi un signe de dépendance qui n'est pas accepté par tout le monde. Bon, donc, tout ça est assez compliqué. Toujours est-il qu'au moment de... Ils résistent tous à peu près de la même façon à l'occupation française. De ce côté-là, on ne peut pas dire qu'il y ait un parti de la France qui se recruterait chez les Kabyles ou les Berbères, et puis un parti hostile qui se recruterait chez les Arabes. En réalité, la résistance est à peu près la même un peu partout, parce que au fond, on considère partout les Français comme des envahisseurs chrétiens, bon, dans des comportements un peu acceptables de toute façon. Donc, les oppositions sont les mêmes, et aussi les capacités, quelquefois, les rapprochements avec la France, les négociations, la diplomatie sont les mêmes aussi des deux côtés. On trouve aussi un peu partout des chefs qui, pour des raisons diverses, sont prêts à accepter une certaine forme de soumission envers la France pour écarter la guerre de leur pays. Ça, c'est tout à fait évident, pour être impressionné par la puissance militaire des Français.
Jacques Frémaux, donc on ne peut pas dire que les habitants donc de l'Algérie, qu'ils soient arabes ou berbères, ne se soient pas dus. Bon, finalement, les Ottomans, les Turcs, qui ne sont pas arabes, qui ne sont pas, qui sont qui dominent, qui dirigent, qui nous abreuvent, nous écrasent d'impôts en quelque sorte, et sont remplacés par les Français. Qu'est-ce que ça change? Acceptons les Français. Non, ils se sont tout de suite levés justement contre la présence française. Alors, est-ce que c'est dû au facteur religieux?
Oui, c'est dû. Hein, disons que le facteur religieux, en tout cas, est une dimension très importante du facteur culturel, si vous voulez. C'est-à-dire que les Français sont considérés, enfin, comme à la fois comme des chrétiens, mais comme des gens qui ont des traditions, des pratiques tout à fait différentes et tout à fait insupportables pour des musulmans. Hein. Et on considère qu'on peut les musulmans de l'époque, enfin, on considère qu'il est très difficile de vivre à côté d'eux. Alors, il y a des choses qui les choquent. Alors, ils le disent. Alors, il y a des témoignages, par exemple, c'est des choses. Alors, vous direz, ce sont des détails. Alors, il y a les détails et puis la chose plus grave. Hein. Mais les détails, c'est du genre, mais comment vous êtes comme les chiens, vous vous couchez sans faire de prière, par exemple. Vous êtes des impies, vous ne connaissez pas, vous ne respectez même pas votre Dieu. Hein. Bon. Et il y a l'idée aussi, bien sûr, que le comportement vis-à-vis des femmes. Hein. les soldats, la présence des soldats qui vivent dans les villes, qui ne prennent aucune précaution, qui vont dans les maisons. Vous savez ce que disait Napoléon en Égypte? En Égypte, il disait: j'aurais pu faire fusiller la moitié de la population, mais je savais qu'il fallait pas envoyer 3 soldats dans une maison parce que j'aurais eu la révolte générale du pays. Et les Français, de ce point de vue-là, ne tiennent absolument pas, enfin, n'ont pas du tout la précaution de se tenir comme il faut, justement, pour respecter cette tradition musulmane qui veut qu'on n'aille pas voir qu'on n'entre pas dans les maisons, qu'on laisse les femmes dans leur espace. Bon. Et donc, il y a toute une série de comportements de ce type. Bon, mais il y a aussi des choses plus violentes, hein. Il y a l'occupation de certaines maisons, de certaines mosquées pour en faire des casernes. Il y a la destruction de certains lieux sacrés, des cimetières. Bon. Il y a la prise, évidemment, ça c'est toujours la même chose, de culture pour se nourrir. Hein. Bon, donc, un comportement qui est considéré comme tout à fait insupportable. Hein.
Donc, Jacques Frémaux, ces étapes de l'histoire que vous nous racontez, telles que vous la résumez magnifiquement dans ce chapitre de la nouvelle histoire de France consacrée à l'Algérie, que publié donc aux éditions Passé Composé, on comprend, selon vos explications, que la guerre est inévitable. À la fois, ça correspond à l'intérêt des Orléans, à l'intérêt, au souhait de l'armée française, donc d'étendre l'occupation française à l'Algérie, et vous venez nous expliquer pourquoi la population locale, qu'elle soit arabe ou berbère, rejette en effet la présence des Français. Donc je vous propose que nous fassions une petite pause, un message à écouter de la radio. Nous écouterons quelques accords de musique de Jean-Sébastien Bach, le troisième mouvement du concerto pour clavecin. Et je vous propose, si cela vous convient, de reprendre après cette pause sur justement cette guerre, hein, cette guerre d'une trentaine d'années, qui est une guerre très dure, avec deux protagonistes très fameux, dont bien sûr vous nous parlerez, c'est Abdelkader et puis le maréchal Bugeaud. Donc je vous propose cette petite pause, si vous voulez bien, Jacques Frémaux, vous restez surtout bien en ligne, et nous vous retrouvons dans quelques instants.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, en cette première partie d'émission en direct, nous avons, je le rappelle, le plaisir de recevoir Jacques Frémaux, qui est professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, à l'occasion de la publication dans cette superbe Nouvelle Histoire de France aux éditions Passé Composé, dirigée par Éric Anceau, et bien la publication de ce chapitre qu'il consacre à l'Algérie, rappelant que Jacques Frémaux effectivement est un spécialiste de cette histoire coloniale de la France. Donc il nous a expliqué dans notre première partie de discussion les raisons qui ont amené Charles X à décider de l'envoi d'un corps expéditionnaire. Il y a plusieurs raisons. Il y a raisons opportunistes liées aux élections, et puis il y a des raisons de fond installées. Ça, c'est une stratégie effectivement qui est inscrite dans l'histoire de la France. Elle remonte à loin. Il nous a expliqué d'installer effectivement un port français en Méditerranée, l'exemple de ce que font les Britanniques à Gibraltar et aussi les Espagnols. Alger est conquise très, très rapidement, mais le comportement des Français, effectivement, et de l'armée française, hein, les soldats ne sont pas forcément des tendres, sinon il ne sera pas soldat. On ne fait pas la guerre avec des anges. Eh bien, le comportement des Français, et puis leur culture, hein, leur religion, heurte, nous a-t-il expliqué, la population locale, hein, qu'elle soit berbère ou arabe, qui est donc hostile à la présence des Français, même si un occupant, on pourrait considérer qu'un occupant en remplace un autre, qui est l'occupant ottoman, mais en effet, il y a sur le plan culturel, le plan de la civilisation, beaucoup plus de points communs entre les Ottomans et les Algériens de l'époque. Donc tout est prêt, en effet, pour cette guerre qui va durer une trentaine d'années, puisque la France souhaite conquérir l'ensemble de l'Algérie. Alors Jacques Frémaux, nous avons des messages d'auditeurs que je vais vous lire, si vous voulez bien, et je vais vous laisser y répondre. Alors tout d'abord, un auditeur qui demande: est-ce que la France a aboli l'esclavage en Algérie? Car l'esclavage était toujours pratiqué, je crois, quand les troupes françaises débarquent.
La France a aboli l'esclavage en Algérie, mais pas tout de suite. En 1848, c'est-à-dire au moment où elle l'a supprimé dans ses propres colonies, effectivement. Donc, l'esclavage en Algérie, qui n'était pas un esclavage de plantation, mais qui était surtout un esclavage domestique, mais qui n'en était pas pour autant un esclavage très doux, hein, bien sûr. La réponse, c'est qu'on a tout aboli en même temps en 1848.
Ça concernait beaucoup de personnes, beaucoup de monde sur place? Il y avait beaucoup d'esclaves?
Non, parce que, encore une fois, c'était surtout un esclavage domestique, donc essentiellement. Des Africains, qui étaient rasiés en Afrique noire et qui étaient vendus ensuite sur les marchés, essentiellement en Algérie, mais pas tellement en Algérie, d'ailleurs surtout au Maroc et en Tunisie. Mais encore une fois, ils n'étaient pas très nombreux. Ça représentait une très faible partie de la population.
Un auditeur qui écrit: je vois que Deval, donc le fameux consul de France, hein, qui a été souffleté par le dais, que Deval Drogman, de son état et de père en fils, est mort en juillet 1829 du paludisme. Giflé en 1827, il n'aura donc pas vu la conquête de l'Algérie. Et notre auditeur écrit: ils avaient bien du courage, ces consuls, dans des pays où l'on pouvait être facilement assassiné par le moindre séide pour motifs religieux, politiques ou crapuleux.
Oui, enfin, disons que c'est un peu complexe, parce qu'en fait, c'est bon, les consuls étaient quand même, je parle des consuls, je ne parle pas des individus, les consuls étaient quand même protégés par les règlements internationaux. Hein. Quand le consul est parti, il a été protégé, il n'a pas été, il n'a jamais été question que le dé le mette en prison ou qu'il le fasse assassiner. Hein. Mais enfin, c'est vrai que ça obligeait à vivre dans des pays, évidemment, difficiles, loin de l'Europe, et dans des conditions sanitaires, comme on le voit pour le Val, qui n'étaient quand même pas toujours, excellentes. Hein. Donc c'était effectivement un métier qui était difficile, tout à fait.
Oui, puisqu'il est mort, en effet, du paludisme, deux ans après avoir été souffleté.
Qui demandait des gens bien trempés, des gens capables, justement, de vivre dans une atmosphère, parce que malgré tout, il faut savoir que les dés eux-mêmes étaient des gens courageux, car aucun dé pratiquement n'est mort de sa belle mort. Ils étaient pratiquement tous assassinés et remplacés et chassés par une révolte de palais. Hein.
Mais alors, je pense que ça pose la question, votre remarque de l'emprise réelle des Ottomans et de Constantinople sur ces sur leurs provinces ou leurs colonies éloignées. Et il vous dit que la plupart des Deys donc qui dirigeaient donc l'Algérie ont été assassinés par des révolutions de palais, mais menées par qui?
C'est, alors, parce que le système, c'est le système ottoman, enfin bon, c'est facile à décrire. Hein. En fait, le sultan de Constantinople, qui était le souverain du pays, nommait sur place un représentant qui était un pacha, qui était turc, et qui était assisté par une garnison qui était des janissaires, donc des soldats qui étaient envoyés depuis Constantinople, enfin depuis en tout cas l'Orient, en garnison en Afrique du Nord, en Algérie. Mais qui n'étaient pas très nombreux, ils représentaient peut-être 15 000 hommes au maximum hein, pour toute l'Algérie. Ils formaient la garde du Dé, ils tenaient les principales villes, c'est-à-dire Alger, Constantine, Oran, puis quelques autres villes, mais finalement très très peu, hein, Mostaganem. Bon, ils étaient chargés essentiellement, et ils assistaient l'administration qui consistait essentiellement à lever des impôts. Avec un système d'ailleurs qui était assez simple, autour des garnisons, on levait assez facilement les impôts. Un peu plus loin des garnisons, il fallait que ce soit chaque année une expédition, une mehalla, c'est-à-dire une colonne militaire qui aille relever chercher les impôts, qui éventuellement en combattant et en pillant ceux qui avaient refusé de payer. Et qui même n'essayait même pas d'entrer dans certaines zones comme la Kabylie par exemple, qui était beaucoup trop dangereuse. En réalité, toute la politique du Dé et des Ottomans, ça consistait à négocier avec les grands chefs de tribus pour, en échange d'une certaine suzeraineté, pour assurer une certaine sécurité du pays et pour assurer, disons le maintien d'un certain ordre, mais c'était à peu près tout. Hein. Au fond, les populations étaient vivaient de manière largement autonome. Elles reconnaissaient la suzeraineté du sultan, du dé, et on considérait que c'était largement suffisant. On aurait considéré comme disons une atteinte. C'était assez curieux, mais dans ce régime despotique, les libertés locales ou les privilèges locaux étaient énormes. Hein, bon. On aurait considéré que justement, lorsque les Français ont voulu introduire une administration régulière, on a considéré que c'était une atteinte épouvantable aux libertés.
Mais justement,
la conception de la liberté n'était pas du tout celle qu'on avait en Europe.
C'est un système très différent que celui qui a été choisi donc par Louis-Philippe hein, et son gouvernement et par son armée, puisqu'on a décidé, on va parler de cette conquête qui dure donc 30 ans, qui est très dure, avec énormément de victimes de part et d'autre. Ce système ottoman, ce n'est pas du tout celui qui a été choisi par la France, puisque là on veut conquérir l'Algérie, on veut s'installer partout, mettre une administration, etc. Et croyez-vous que les Français auraient pu prendre modèle sur le modèle ottoman? Et retenir quelques villes, quelques villes principales.
Oui. Ils auraient pu essayer, en tout cas, d'établir une espèce de système de protectorat.
Oui.
Ça, c'est tout à fait possible. Ils auraient pu essayer, par exemple, de garder, de conserver le Bey, de conserver quelques chefs locaux et de gouverner par leur intermédiaire. Hein. Mais cette idée de protectorat, ils ne l'ont jamais eu sérieusement. Hein.
Pour quelle raison? Parce qu'on l'a fait ailleurs. Et là, l'Algérie, effectivement procéder totalement différemment, puisqu'on va avoir des départements, etc. Pourquoi l'Algérie?
Oui, parce qu'on était instruit justement de très mauvais résultats de l'Algérie et qu'on voulait éviter de retomber dans les mêmes errements. Donc, effectivement, on s'est dit il faut éviter de faire la même chose en Tunisie, il faut éviter de faire la même chose au Maroc, et puis il faut ajouter en plus qu'en Tunisie, au Maroc, des traités internationaux ont obligé la France à maintenir les dynasties locales, alors que c'était pas le cas en Algérie. Mais il faut reconnaître aussi que la dynastie locale en Algérie, enfin les Bey, n'avaient pas la solidité du système tel qu'il existait en Tunisie ou au Maroc. Mais c'est vrai que on a pensé à un moment gouverner avec l'aide de quelques grands chefs, mais finalement ça n'a jamais fonctionné parce que ces grands chefs eux-mêmes n'ont jamais, bon, si on anticipe un peu, il y avait deux grands chefs d'Algérie, c'était Abdelkader.
Nous allons en parler en effet.
D'un côté, dont on reparlera, et puis c'était le Bey Ahmed de Constantine. Mais le Bey Ahmed de Constantine, ne voulait reconnaître que la souveraineté du sultan, c'était un sujet fidèle du sultan. Et quant à Abdelkader, pendant très longtemps, son idée, c'était qu'un musulman ne pouvait pas reconnaître la souveraineté d'un roi de France. Donc,
une affaire religieuse.
Aucun n'était vraiment, n'aurait accepté de jouer vraiment le jeu d'un protectorat. Et comme le gouvernement français, finalement, ne tenait pas non plus à ce protectorat, oui, ça rendait les choses à peu près inconcevables.
Donc, ce que vous nous expliquez, Jacques Frémaux, hein, c'est la solution donc, de contrôle de l'Algérie. Ce n'est pas un protectorat, ça a été donc c'est allé jusqu'à une départementalisation, c'est un contrôle total hein, de la métropole sur l'Algérie. S'explique par deux facteurs principaux. Un, parce que les traités internationaux là, nous laissaient les mains libres en Algérie, la différence du Maroc et de la Tunisie, d'une part, et d'autre part, les locaux, les chefs locaux, les deux chefs principaux, Abdelkader et donc le sultan Ahmed. De Constantine, hein, c'est ça.
Je sais pas si c'est...
Pardon,
le Béhmed.
C'est ça. Eux ne voulaient pas, effectivement, être vassalisés par des Français. C'est ça, on veut... les raisons profondes qui conduisent à ce statut si particulier, enfin particulier, oui, de l'Algérie par rapport aux autres colonisations.
Il faut ajouter que ces deux chefs, finalement, étaient déjà assez rationnels et ils ne pouvaient pas imaginer que les Français consacreraient tant d'efforts à conquérir leur pays aussi.
Oui. Alors nous allons parler en effet effectivement de cette guerre. Un autre message d'auditeur qui nous dit que le Dey et son harem ne sont pas allés à Constantinople où sans doute sa tête aurait roulé, alors pourquoi, je ne sais pas, mais à Naples où Dumas, Alexandre Dumas le décrit dans son Coricolo en rapportant qu'il aurait tué une de ses femmes.
Oui, ça c'est. Oui, c'est vrai, j'avoue que là j'ai été un peu vite sur ce sujet, mais j'avoue que j'ai un peu perdu de vue après ce qui
s'est passé. Oui.
Effectivement, il a été un homme, mais est-ce qu'il y est resté, est-ce qu'il est reparti? J'avoue que je n'ai pas de suivi tellement la suite de ces choses. Donc, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la plupart des observateurs de l'époque considéraient que ce dé d'Alger était un chef plutôt compétent et plutôt disons qui avait plutôt bien gouverné l'Algérie, donc on avait plutôt sur lui un jugement positif avant la chute. Mais bon, ensuite évidemment c'est autre chose.
Et puis un message de lecteur que je vous lis, même si on franchit plus de 100 ans hein, puisqu'on est en dans les années 1960, un auditeur demande si Oran a été une ville particulièrement touchée par la guerre d'Algérie, pas celle que nous évoquons maintenant, celle de 1830 à 1857, mais effectivement la dernière, la guerre d'indépendance. Notre auditeur demande si Oran a été très touché par cette guerre.
Ah ben, Oran a été touché, mais sans doute plus tardivement que le reste de l'Algérie, sans doute. Parce que la population française, la proportion de la population européenne, comme on disait, était plus importante et que les opérations du FLN et de la LN dans la région ont été plus tardives. Mais bon, c'est plutôt l'Est de l'Algérie qui a été, surtout la région de l'Est algérien, qui a été plus touchée par la guerre. Mais, en fait, ce sont des nuances. Hein. La guerre a été très violente partout.
Elle était partout. Alors, je vous propose en tout cas que vous évoquiez cette première guerre, hein, cette guerre de conquête de l'intégralité du territoire algérien, avec donc, disons, trois personnages principaux, remarquables en tout cas, qui sont Abdelkader, je n'arrive pas à mémoriser son nom, le chef de Constantine.
C'est Ahmed. Ahmed.
Ahmed, le chef Ahmed, on va l'appeler comme ça, et naturellement le maréchal Bugeaud, qui était à la tête d'une armée de 100 000 hommes. Je vous propose que vous évoquiez cette conquête, cette guerre de 30 ans, les faits marquants. Je propose que vous nous racontiez cela.
C'est un peu bon. Je vais essayer. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ensemble, il n'y a pas. C'est pas une guerre. C'est très rarement une guerre classique, c'est-à-dire avec des affrontements entre deux armées. Il y a eu très peu de batailles au sens strict du terme. Il y a eu plutôt des engagements parce que très vite, il n'y a pratiquement pas eu plus du côté des Algériens, et très vite, il n'y a plus d'armée régulière. La seule armée régulière, c'était celle du départ que possédaient sous la direction des Turcs. Bon, mais ces armées avaient disparu. Et les successeurs, aussi bien Abdelkader que le Béhamed, ont essayé d'organiser des troupes, mais finalement, ils n'ont pas réussi à avoir des troupes qui pouvaient véritablement se battre, affronter l'armée française en bataille, même s'ils ils se sont battus de manière très, très courageuse et quelquefois même tout à fait héroïque. Donc, les contingents qui avaient affronté les troupes françaises, c'était essentiellement les guerriers des tribus, c'est-à-dire des gens qui étaient habitués à se battre, qui avaient tous un fusil, qui étaient souvent d'excellents cavaliers, mais qui étaient plutôt organisés pour des coups de main, pour des opérations de guérilla, pour une guerre d'embuscade, que pour des grandes opérations militaires, hein. Donc le résultat, c'est qu'on est dans une guerre qui est plus une guerre, ce qu'on appelle une guerre de partisans ou une guerre de guérilla, telle qu'on a pu la voir, d'ailleurs que les Français connaissaient très bien, très peu de générations avant, ils avaient connu la guerre de Vendée, par exemple, ils avaient connu la guerre d'Espagne, hein, avec tous les côtés extrêmement violents de ces guerres dans lesquelles, effectivement, on a affronté des troupes qui sont irrégulières, c'est-à-dire qui peuvent intervenir à n'importe quel moment, donc les armées ne se sentent jamais véritablement en sécurité. Des adversaires qui préfèrent, ce qui est normal étant donné la disproportion, utiliser des techniques d'embuscade, des techniques de guérilla. Et il faut bien ajouter aussi, comme souvent dans les guerres paysannes, qui utilisent des procédés atroces. Bon, en Algérie, c'était très bien, enfin, c'est bien connu, des soldats isolés dont on coupe la tête, dont on mutile les cadavres. Bon, tout ceci qui rend les soldats particulièrement inquiets et donc particulièrement acharnés, particulièrement violents. Bon. Il y a le fait que les armées qui se déplacent, les armées françaises, sont très mal et qui sont bien équipées, mais elles sont mal nourries, elles se nourrissent sur le pays, et pour se nourrir sur le pays, ça consiste à le piller. Bon, donc là aussi, une cruauté, enfin une violence supplémentaire. Et puis il y a ensuite, et enfin, la stratégie qui est employée, pas dès le début, mais qui est très vite employé par le général Lamouricière, puis ensuite par Bugeaud, qui consiste à dire que le seul moyen de soumettre le pays, c'est justement d'obliger les populations, les guerriers à se soumettre, c'est-à-dire de prendre leurs biens, de détruire leurs récoltes, de détruire leurs arbres fruitiers, éventuellement de capturer leurs douars, leurs villages, de façon à ce que ce qu'ils ne puissent plus que leur famille soit menacée, hein, et donc créer des colonnes comme ça qui vont parcourir le pays et qui vont le ravager, hein, et ce qui explique véritablement la très grande violence de cette guerre, tant dans les méthodes que dans les pratiques, si vous voulez, que dans les Alors, si on regarde les épisodes, bon,
pardonnez-moi, Jacques Frémaux, excusez-moi, je vous interromps à nouveau. Quelles sont les forces en présence de part et d'autre, hein? Comment l'adversaire est-il organisé? Parce que vous voyez l'armée française, hein, comme une armée d'invasion, etc. Mais en face, combien sont-ils organisés? Vous avez parlé donc du Béhamed, hein, Constantine, et puis après apparaît naturellement Abdelkader qui est élu. Alors vous avez expliqué par qui il va être élu d'ailleurs. Quelles sont les forces en présence, hein?
Les forces en présence, elles sont difficiles à... Bon, les forces françaises, c'est assez facile, hein, puisqu'on connaît les effectifs. Hein, donc, au départ, l'armée française, bon, c'était 37 000 hommes, et puis ensuite, on a diminué les effectifs. Et puis, à l'époque de Bugeaud, on a 100 000 hommes à peu près, hein, ce qui est plus de 100 000 même, ce qui est énorme, puisqu'à l'époque, l'armée française doit avoir au total, peut compter sur 400 000 hommes, au total pour la France, mais comme il y a beaucoup de gens qui sont... ça représente peut-être la moitié des forces françaises véritablement combattif, véritablement active, hein, donc c'est énorme. Bon, du côté algérien, ce sont les guerriers des tribus, donc ça n'a pas de sens particulier, si vous voulez. On peut imaginer les choses comme ça. Une colonne se déplace, elle commence par circuler dans le vide. Hein, toutes les populations font le vide, ils ont d'autant plus pensé qu'à l'époque, une grande partie des populations algériennes vivent sous la tente, hein, donc elles sont assez mobiles. Donc elles font le vide devant la colonne. Et puis à partir d'un certain moment, la colonne arrive dans un endroit un peu difficile, dans une gorge, où à ce moment-là, elle commence par être attaquée par les guerriers. Et donc elle prend des coups de fusil, elle doit se défendre, elle fait une contre-attaque, elle essaye de prendre les sommets de façon à... Et puis ensuite, elle se retire. Et quand elle se retire, alors là, il y a une masse de cavaliers, des tribus qui sont appelées, qui essayent d'attaquer son arrière-garde. Vous voyez, c'est comme ça que se passent les choses. C'est une guerre dans laquelle l'ennemi n'est pas présent en permanence. Et c'est ça qui rend cette guerre
Mais,
particulièrement
alors,
difficile.
quelles sont les étapes principales, justement, de cette guerre, de ces 3 années de guerre?
Alors, les épisodes principaux, bon, c'est toujours un peu difficile de les... Disons que juste le premier épisode, enfin bon, les premiers combats sont menés à partir de 1832-1833. Hein, mais alors, ce sont notamment aux alentours d'Oran, aux alentours d'Alger, dans la plaine de la Mitidja. Et puis, il y a des efforts pour prendre quelques villes qui sont de l'intérieur, comme par exemple, qui ne sont pas très lointaines, hein, comme Blida, comme Médéa. Bon, donc ce sont des opérations qui, en général, d'ailleurs, ne réussissent pas tellement parce qu'on en arrive à avancer, puis on recule. Bon, donc ce sont des opérations à coup de lance, comme on dit. Alors, la première, les choses commencent à se stabiliser, si vous voulez, à partir du moment où on décide, à partir de 1839, à partir de la 1837 plutôt, lorsque on arrive à occuper Constantine. Donc ça, c'est un premier point important, la ville de Constantine qui est prise, qui permet de commencer à contrôler l'Est algérien, avec la fondation de Philippe Vilskikda, hein, comme port de desserte. Et puis ensuite, à partir de 1839, ce sont les opérations contre l'émir Abdelkader. Alors, c'est l'occupation de la vallée du Chélif avec la fondation d'Orléans-Ville, Chlef actuellement, à la SNAM dans l'intervalle. C'est ensuite là l'opération de la prise de la Smala au sud de Médéa en 1843. Et donc, c'est à partir de là l'occupation systématique du pays par les colonnes françaises. Et on peut dire qu'en 1845, les colonnes françaises ont créé un réseau de postes qui couvre à peu près toute l'Algérie. Et en 1847, Abdelkader essaye, enfin, fin 1847-46, essaye de faire un retour offensif, mais il n'y réussit pas. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir plutôt des insurrections locales qui, quelquefois, vont être assez graves, hein, comme l'insurrection de Zaratcha, par exemple, en 1849, dont la répression était extrêmement violente, et puis ensuite les opérations d'occupation les occupations de la Kabylie en 1857, et puis il faut penser aussi bien sûr à la grande insurrection de 1871, qui était quelque chose de très violent également. Donc voilà, en gros, si vous voulez, je ne sais pas si c'est assez difficile à résumer parce que il n'y a pas de bataille qui marque, vous voyez, il y a d'abord des opérations qui ne réussissent pas et qui couvrent un peu le pays, mais sans réussir. Et puis ensuite, il y a une occupation un peu systématique avec la fondation de postes. Il y a donc 3 lignes de postes, une sur la côte, une à peu près au milieu de l'Algérie, si vous voulez, sur la partie centrale, et l'autre à la limite des hautes plaines, c'est-à-dire des hauts plateaux.
C'est le maréchal Bugeaud qui commande les troupes françaises après le général Lamoricière. Le maréchal Bugeaud a été donc très très estimé, était un grand personnage dans notre histoire, et maintenant il est à l'inverse très critiqué pour la manière dont il a mené cette guerre. Que faut-il en penser en tant qu'historien? Que nous diriez-vous sur ce sujet?
Bon, ben, si vous voulez, le Bugeaud, il résume un peu cette forme de guerre. D'abord parce qu'il l'a théorisée en expliquant comment justement il fallait mener ses opérations contre les tribus. Hein, et donc, il résume cette forme de guerre. Mais malgré tout, C'est, disons que on a tort sans doute de lui attribuer tous les péchés de la conquête. En réalité, Bugeaud, c'est l'instrument de la politique française à l'époque. Hein. Il est tout à fait considéré pour cela. Et d'ailleurs, Bugeaud est un homme qui est beaucoup plus complexe, on le dit. Il a été longtemps adversaire de la conquête. Il jugeait que la conquête coûtait très cher à la France et qu'elle ne lui rapporterait pas grand-chose. Il a ensuite été quand même capable. Il a essayé de mettre sur pied un système d'administration de l'Algérie par les bureaux arabes, qui était un système relativement efficace et qui était relativement respectueux des traditions locales. Il s'est opposé aux revendications excessives des colons qui auraient voulu occuper toutes les terres des tribus, en expliquant qu'il fallait quand même limiter cette occupation et qu'il fallait laisser aux populations la majorité de leurs terres. Donc, c'est un homme qui incarne une certaine violence, mais enfin, il ne faut pas oublier quand même que tous ces gens avaient été enfants à l'époque de la Révolution, que Bugeaud était entré deux jours après être entré dans l'armée. Bugeaud s'était battu en duel et avait tué son adversaire, qu'il avait ensuite été participé à la guerre d'Espagne, qui était là aussi quelque chose de très, qui était quelque chose d'assez atroce, hein. Et que par conséquent, ces gens étaient, ça serait facile de dire que ces gens étaient des traumatisés, mais enfin, il faut reconnaître qu'ils sortaient tous d'une période qui était extrêmement, qui avait déjà été extrêmement atroce, et qui en France l'était encore, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore eu les soulèvements de Paris, alors à l'époque de Louis-Philippe, puis ensuite en 1848. Hein, on vivait dans une atmosphère de guerre civile permanente.
Alors Jacques Frémaux, je propose que nous terminions, il nous reste 4 minutes, un peu plus de 4 minutes à passer en votre compagnie. Vous faites un éclairage à la fin de votre chapitre sur le personnage d'Abdelkader. Alors je vous propose que vous évoquiez Abdelkader, la manière, qui était-il, alors c'est court 4 minutes hein, pour un personnage flamboyant, quel était son talent particulier à mener cette guerre. Nous écoutons sur Abdelkader si vous voulez bien.
Mais Abdelkader, c'est quelqu'un qui, justement, a été capable d'imposer une image du chef musulman qui était très différente de celle qu'on avait développée à l'époque, c'est-à-dire de gens fanatiques, de gens barbares. Bon, Abdelkader était un homme extrêmement instruit, extrêmement lettré, qui était un chef de guerre. Qui n'hésitait pas, un chef aussi qui est politique, qui n'hésitait pas à avoir beaucoup de sévérité pour ses adversaires, mais qui en même temps savait faire preuve de bienveillance, savait faire preuve d'indulgence, qui n'était pas, qui a toujours essayé d'entretenir avec les Français, même en temps de guerre, un langage qui soit un langage d'estime réciproque, y compris d'ailleurs envers les chrétiens. Et qui a surtout eu ensuite, bon, qui a été obligé de demander l'arrêt des combats en échange de son départ pour l'Orient, ce qu'on ne lui a pas accordé tout de suite, puisqu'il a été obligé de passer plusieurs années en résidence surveillée en France, mais qui, justement, pendant cette résidence surveillée en France, a été capable d'entrer en relation avec énormément d'hommes politiques, de religieux, de militaires, de savants, avec lesquels il a entretenu vraiment un dialogue qui était ce qu'on peut appeler un dialogue qui était déjà islamo-chrétien dans un certain sens, franco-algérien, c'est-à-dire l'idée qu'on pouvait fonder une amitié réciproque, bon, dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles. C'est pour ça, bien sûr, que le personnage d'Abdelkader doit toujours être interrogé aujourd'hui avec beaucoup de prudence, parce que malgré tout, il ne faut pas le considérer comme, on l'a fait trop souvent aussi, comme un Algérien qui avait accepté la soumission à la France sans aucune restriction. C'est un homme qui était partisan d'une amitié franco-algérienne, ou franco-musulmane, ce qui n'est pas exactement la même chose.
Il a été élu par les tribus arabes. Dans quelles circonstances il est devenu le chef?
C'est-à-dire que au moment où justement Oran a été occupé par les Français, les tribus locales ont voulu essayer de les enchasser. Et ils ont eu besoin d'un chef. C'est d'abord le père d'Abdelkader, qui était un homme extrêmement estimé, Mahyedin, qui a été choisi. Et Mahyedin étant âgé, il a demandé qu'on désigne son fils, qui avait un peu plus de 20 ans, pour prendre la direction, pour devenir sultan, prendre la direction des tribus à sa place. Bon, rôle qu'Abdelkader a rempli avec beaucoup d'efficacité.
Et pourquoi les accords de Tafta, ces accords entre effectivement les Français et Abdelkader, lui reconnaissant une autonomie sur la région ouest de l'Algérie, pourquoi ça n'a pas tenu, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça sera la dernière question, Jacques Frémaux,
oui,
si vous voulez.
Oui, je crois que, bon, parce qu'il ne faut pas voir Abdelkader, il est un politique aussi. Hein, donc, bon, les Français étaient contents d'avoir la paix avec Abdelkader, mais ils auraient voulu le réduire à une petite partie de l'Algérie. Abdelkader, au contraire, voulait étendre son autorité en direction de l'Est algérien. Et les termes du traité de la Tafna étaient très ambigus. La version française, telle que les Français l'avaient voulu, limiter apparemment le développement d'Abdelkader, alors que la version arabe, qui était celle que considérait Abdelkader, au contraire, lui permettait de s'étendre.
Jacques Frémaux, malheureusement, nous devons interrompre cette émission, mais vous reviendrez, ne serait-ce que pour votre prochain livre. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils peuvent vous retrouver dans ce chapitre consacré à l'Algérie, de la nouvelle histoire de France, aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup à vous, Jacques Frémaux. À très bientôt.